La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier.
C'est 23.
Voici la chronique économique de Pierre-Yves McSween.
Salut Pierre.
Salut Patrick.
La SAQ est en grève aujourd'hui et demain. Tu veux nous parler du contexte particulier des négociations?
J'ai failli prendre un petit Pontet-Canet pour te parler de ça, mais c'était trop cher. Donc, je vais rester avec l'eau puis je vais te parler de plusieurs affaires. Un, les résultats financiers de la SAQ sont publics. Et ça, c'est spécial pour le gouvernement parce que tu peux pas négocier avec le syndicat en disant « Hey, on n'a vraiment pas de marge de manœuvre, mais en passant, on a fait 1,5 milliard de bénéfices nets l'an passé. Puis cette année, après trois trimestres, on est rendu à 1,16 milliard. C'est sûr que tu peux pas dire que ça n'a pas de marge. » Ben, ça va bien, mais en même temps, de l'autre bord, comme c'est une société étatique, le gouvernement dit dans son budget, on veut plus d'argent des sociétés d'État. Donc là, tu es le président de la SAQ. Puis tu te dis d'un bord, attends une minute. D'un bord, le gouvernement me fait pression. Et de l'autre bord, les employés me font pression. Et moi, il faut que je livre un plus gros dividende au gouvernement, optimiser mes affaires et quand même donner à mes employés des conditions intéressantes. Puis il faut pas oublier aussi qu'après les ventes, il y a de la TPS TVQ qui sont pas dans les résultats du gouvernement au niveau de la SAQ directement, mais c'est dans les résultats du gouvernement au niveau fédéral et provincial. Après ça, tu as un monopole d'État. C'est difficile de négocier une convention collective en faisant des comparables alors que tu n'as pas de comparables. Tu peux pas comparer avec les conditions dans le dépanneur, dans les épiceries ou dans les restaurants. C'est pas la même business parce que tes employés font du conseil. Donc, tu ne sépares peut-être pas bien le travail de manutention et le travail de conseil. Et ça, c'est difficile, évidemment, pour le gouvernement à négocier. L'autre point, c'est qu'une fois que tu as dit que tu veux donner un dividende récurrent au gouvernement, puis tu regardes l'organisation du travail, tu te dis, ben là, les horaires à SAQ, tout le monde se plaint de pas être permanent.
J'ai l'impression, Pierre-Yves, d'entendre un disque brisé. Il me semble que les deux dernières négociations, c'était autour des horaires puis de la précarité.
Ben, c'est certain que, tu sais, les SAQ sont pas ouverts à 7h30. Ils sont ouverts plus tard.
C'est vrai.
Avec le soir aussi, des fins de semaine, des horaires brisés. Beaucoup de travailleurs précaires, donc, qui n'ont pas nécessairement accès au régime d'assurance. Est-ce qu'il y aurait moyen d'arrêter de gérer la SAQ comme on gère un McDonald's, c'est-à-dire de sortir les horaires à un certain niveau puis dire au monde, regarde, toi, tu travailles tous les horaires, c'est là, c'est permanent, c'est comme ça. Tu sais, t'es un employeur d'État, pareil, tu décides de faire un monopole. Il y a une certaine, peut-être, organisation du travail qui sera à revoir. Et ça, je leur donne. De l'autre côté, est-ce qu'on pourrait aussi avoir des espèces de services express où il n'y a pas de conseil, où il y a quelques bouteilles, puis réduire la lourdeur administrative d'une certaine section de la SAQ? Peut-être. Mais c'est certain que quand tu regardes les ventes, Patrick, 73% des ventes de la SAQ sont en succursale. 3% en ligne, 10,9% chez des titulaires de permis externes, 4% chez des agences, puis tu as des grossistes après ça à presque 9%. Mais dans le fond, quand tu regardes ça, la majorité des ventes de la SAQ se font en point de service de succursale. Maintenant, c'est là qu'il faut que tu te dises qu'est-ce que tu veux comme société d'État. Est-ce que tu regardes froidement le produit en disant c'est du vin, comme de l'huile d'olive, comme du vinaigre, puis on met des bouteilles sur des tablettes, puis on fait du commerce de détail, ou on assume son rôle de conseil de produits alcoolisés, puis on commence à changer un peu la rémunération du monde et mettre moins de pression sur le dividende gouvernemental. Là, le problème, c'est qu'on veut jouer sur tous les tableaux. Puis c'est ça l'enjeu.
Mais Pierre-Yves, il doit avoir moyen de pallier un peu à la précarité.
Ben, c'est sûr que
donner des meilleurs horaires sans faire flamber complètement le bénéfice d'un milliard point cinq.
T'as raison. Il y a sûrement moyen de dire, regarde, il y a des jobs précaires. Là, si t'en mets deux, trois ensemble, on pourrait donner un poste à quelqu'un. Puis d'arrêter, puis dire de me mettre peut-être des emplois précaires après ça sur de la clientèle étudiante qui prend acte, qui dit, moi, je vais partir plus tard. Je sais pas ce qu'on peut faire au niveau syndical, au niveau légal. Ce que je peux dire, c'est au niveau du bénéfice et de l'organisation du travail, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là. Tu ne peux pas dire à tes employés, on ne peut pas en faire plus puis dégager 1,5 milliard de surplus à la fin. Il y a quelque chose là-dedans qui est incohérent.
Mais rassure-moi, tu tiens le coup avec la grève d'aujourd'hui et demain?
Bon, moi, Patrick, j'ai une stratégie d'achat assez surprenante.
OK.
C'est que j'achète sur plusieurs jours. Donc, pour plusieurs jours.
Fait que t'en manques jamais.
Non, je suis pas genre à SAQ tous les jours, okay, m'acheter ma bouteille à 17$. J'en achète 4-5 bouteilles à la fois. Et t'as raison, là, c'est là l'enjeu. C'est qu'une grève à la SAQ, tu vas pas frapper la clientèle de façon massive tant aussi longtemps que tu fais pas une grève longue. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Je vais finir mes fonds de 41, mais en fond de 20. » C'est sûr que les restaurants sont touchés peut-être, mais eux aussi, ils ont une réserve. Donc, t'as raison, au total. C'est pas la grève de deux jours qui est fatigante.
Si t'es dans le trouble, fais-moi signe.
Vous écoutez La Chronique économique avec Pierre-Yves McSween.
Parle-moi de réaction de médecins hier à ta chronique, parce que tu as parlé justement de la hausse du taux d'inclusion des gains de capital là, qui va passer de 50 à 66 % après 250 000 $. Beaucoup de médecins qui ont des INC et ça les affecte.
Oui, parce que évidemment l'association au niveau canadien a réagi, au niveau canadien. Mais ce qu'il faut comprendre, les médecins, c'est, je vais le mettre dans leur peau. Revenons dans le passé. Il y a une époque où les médecins partaient un INC, OK, et fractionnaient leurs revenus avec leur conjoint-conjointe en disant que le conjoint-conjointe travaille dans l'entreprise et ils pouvaient avoir le meilleur taux d'impôt corporatif. À un moment donné, le gouvernement libéral au Québec est arrivé et a dit « Attendez une minute, là. On va arrêter de faire semblant qu'il y a deux à opérer là-dedans. Pour pouvoir avoir le plus petit taux corporatif, il va falloir au moins 3 employés, donc 5500 heures. » C'est le premier nanane qu'on leur a enlevé. Après ça, Bill Morneau au fédéral a débarqué. Puis il a dit, là, quand vous avez plus que 50 000 de revenus passifs dans un INC, là, on va commencer à vous imposer davantage. Et la semaine dernière, t'as Mme Freeland qui vient dire, là, dans un INC, à partir du premier dollar, vous serez plus imposé sur le gain capital, alors que les particuliers, eux, qui sont chez eux, auront jusqu'à 250 000 avant de voir le taux d'inclusion augmenter. Donc, les médecins se sentent floués pour une raison, c'est qu'ils ont joué à l'époque avec des règles du jeu qui étaient différentes. Et là, ils ont l'impression d'avoir une imposition de leur épargne planifiée, rétroactive. C'est-à-dire que nous, on a placé dans Zoing pendant des années, puis là, vous venez nous taxer plus. Avoir su que ce serait de même, on aurait peut-être agi autrement. Je les comprends, mais c'est comme ça pour tous les travailleurs qui ont un INC. Là, c'est pas juste eux. Deuxième point intéressant, c'est on m'a parlé beaucoup de la rémunération. On m'a dit, tu sais, Pierre, c'est pas tous les médecins qui font 500 000, c'est sûr. Je parlais au niveau canadien. Tu sais, par exemple, un psychiatre en 2019-2020 au niveau canadien faisait environ 319 000, mais un ophtalmologiste pourrait aller tirer 880 000 selon les données de l'Institut canadien d'information sur la santé. Et donc, c'est sûr qu'en moyenne, c'est pas tous les optimipatriciens. Je suis bien fatigué.
Les omnipatriciens.
Patriciens, mais parce que tu t'appelles Patrick, hein? Un omnipatricien. Non, mais un omnipraticien qui fait un salaire très, très élevé, on peut dire 300 000, mais c'est quand même, quand tu as un INC, une possibilité d'optimiser ta fiscalité et de reporter un certain impôt. Maintenant, ce que je leur propose aux médecins qui sont pas d'accord avec les mandats de Mme Freeland, j'ai une solution bien facile. Fermez votre INC. Prenez tout votre revenu annuel de 300, 400, 500, 600 000 et imposez-vous d'une shot comme des salariés. Vous allez voir que c'est pas si le fun non plus. Donc, tu sais, il n'y a pas de gagnant là-dedans, mais je pense que c'est un point sur lequel M. Poilievre va frapper très fort parce que les entrepreneurs, les investisseurs immobiliers, petits ou grands, les médecins, les professionnels, tout le monde qui est frappé par cette mesure-là, qui est pas mal plus que ce que le gouvernement dit, va frapper très fort et crier très fort dans les prochaines élections.
Merci, Pierre-Yves. On se retrouve demain.
C'est 23.